Chapitre 10. Milan, 27 juin, avant le jour. Il m'a demandé, vous n'avez pas de commission pour Florence ?
Oh si, j'en aurais bien une, mais il ne la ferait pas. Ce serait de dire à son aimable fille qu'elle occupe toutes mes pensées, que j'ai passé la nuit à renouveler ce voyage d'hier, tantôt à travers les chemins de Desio et les galeries de la villa, tantôt sur la route de Milan. Monsieur Charnot n'était pas là ou dormait. Moi, j'étais éloquent, je trouvais une foule de jolies phrases que je n'ai pas trouvées quand il l'aurait fallu. Si je pouvais la revoir, à présent que j'ai bien médité, bien pesé, bien combiné toutes choses. Vraiment, c'est dommage que la vie ne soit pas à recommencer, au moins certaines pages. Comme je revivrais celle-là. Que pense-t-elle de moi ? Au fond de ses yeux, qui s'arrêtaient sur les miens, j'ai cru saisir des questions, un peu de surprise, un peu de trouble même. Mais la réponse, elle va l'emporter avec elle vers Florence, cette réponse d'où dépendra ma vie. Ils vont bientôt partir par l'express du matin. Si je le prenais avec eux, Florence, Rome, Naples, pourquoi pas, l'Italie est à tout le monde, aux amoureux surtout. J'enverrai pour la deuxième fois mon bonnet carré par-dessus les moulins. De l'argent, j'en ferai venir. S'il faut ne pas me montrer, je la regarderai de loin, cachée dans la foule. Au besoin, je me déguiserai. Je serai guide à Pompéi, Lazzarone et dans les rues de Naples. Elle trouvera un sonnet dans le bouquet de fleurs fraîches que lui tendra cette petite romaine à la porte de son hôtel. Et, au moins, j'aurai son sourire, l'écho de sa voix, le reflet d'or de ses tempes et la douceur de la savoir tout près quand je ne la verrai pas. « Eh bien non, ce n'est pas la route de Florence que je prendrai. Comme je me défie de mon premier mouvement, de mon imagination qui court devant et laisse la raison loin derrière, j'ai eu recours à un moyen que j'emploie souvent. Je me suis dit, qu'est-ce que me conseillerait l'Emperon ? Et j'ai revu sa bonne figure triste et je l'ai entendu qui répondait, « Reviens, petit !» Paris, 2 juillet. Quand on arrive le soir et que, du train lancé à toute vitesse, on aperçoit, par l'échancrure des rues aussitôt dépassées, Paris dans une vapeur rouge, sillonnée par les feux des becs de gaz, lignes d'étincelles qui se croisent en tous sens, le spectacle est étrange, presque beau. Il semble qu'une fête gigantesque s'achève, que ce soit des cordons de verre de couleur qui flambent ainsi dans la nuit, qu'au-dessous la foule passe, bruissante, soulevant cette poussière immense et qu'un reste de feu de Bengale en pourpre le décor. Ce n'est qu'à moitié une illusion, car la grande ville est en fête, dans la fête de toutes ses nuits. Jusqu'à 1 heure du matin, tout vit en elle, tout flamboie et résonne. Mais elle a l'aube triste. Cette heure exquise, qui met tant de joie aux champs, est affreuse à Paris. Vous descendez glacé du wagon, au milieu d'employés les yeux rougis par la veille. Les préposés de l'octroi, à moitié engourdis, écrivent sur la malle un signe cabalistique. Vous sortez. Dehors, quelques rares voitures. Les cochers dorment dans leur cache-nez, les lanternes tremblotent dans la brume.
Cocher, vous êtes libre ?
Ça dépend, bourgeois. Où allez-vous ?
Rue de Rennes, 91.
Montez.
Oh, ces rues désertes qui s'allongent indéfiniment, ce silence lugubre, ces magasins fermés à droite et à gauche, ces squares où l'on ne découvre qu'un chien et un égoutier, ces affiches de théâtre déchirées qui pendent des kiosques, ces lambeaux de papier que le vent froissé roule sur le bitume avec la poussière de la veille, ces bouquets fanés tombés des fenêtres, la rue de Rivoli livrée à la compagnie Richer, la Seine clapotant le long des bateaux inertes, ces deux gardiens de la paix, drapés dans leurs manteaux, dont le pas éveille un écho, les jets d'eau sans eau, les fontaines taries, et partout, l'air froid mêlé d'odeurs infectes, quel voyage et quel mauvais rêve! Et c'est celui que j'ai fait, de la gare de Lyon à mon appartement. Une fois rendu, le pied dans mon domaine, cette pénible impression se dissipe peu à peu. Ma solitude diminue de tous les souvenirs qui vivent dans les choses. J'interroge ces muets témoins, mon fauteuil, ma table, mes livres. Que s'est-il passé pendant mon absence ? Rien de grave sans doute. Les meubles ont une légère couche blanche qui prouve que nul ne les a touchés, pas même Madame Menin. Est-ce drôle ? Elle me manque, Madame Menin. Je sens que je vais être heureux de la revoir.
Tiens, le voisin d'en face est déjà au travail. C'est un géographe, un graveur pour la maison d'édition à côté. Je n'ai jamais pu m'éveiller aussi tôt que lui. Le sol a poussé fièrement cet été. Si j'ouvrais la fenêtre. Bonjour, Giroflée. Bonjour, vieux mur des Carmes. Bonjour, la vieille tour noire. Oh, les Martinets! Quelle heure est-il donc? Les voilà qui s'élancent tous ensemble avec des cris, ces pirates affamés. Les voilà qui tournent, rasant les murs, rapides comme des balles, portés sur leurs ailes pointues. Ils ont vu le soleil, c'est le jour. Et, en effet, une charrette roule, une marchande passe. Du mouron pour les petits! Point d'orgue. Oiseaux! Dire qu'il y a des gens qui descendent, à cette heure-ci, acheter du mouron pour leur serin. Voyons si quelqu'un est venu sonner à ma porte pendant mon absence. Les cartes doivent être sur ma table. En voici deux. Monsieur Lorinet, ancien notaire, conseiller municipal de Bourbonnoux-les-Bourges, suppléant de la justice de paix. Madame Lorinet, née Poupard. Je m'étonne qu'il n'y en ait pas une troisième, Berthe Lorinet, sans profession, aspirante à changer de nom. D'un placement difficile, Berthe. Elle n'aura pas osé laisser sa carte chez un jeune homme, ce ne serait pas convenable. Mais elle a dû venir. Je soupçonne une ruse de mon oncle, un de ces bons gros câbles de transatlantique qu'il prend pour des fils d'araignées invisibles et dont il fabrique ses pièges. Les Lorinet sont montés chez moi dans le double but de rapporter de mes nouvelles à mon bon oncle et de rappeler discrètement à mon cœur oublieux les charmes de Berthe Lompier. Bonjour, monsieur Mouillard. Tiens, madame Menin. Bonjour, madame Menin. Vous voilà pourtant de retour. Êtes-vous grillé? Vrai, êtes-vous grillé? Monsieur Mouillard va bien tout de même? Très bien, je vous remercie. Est-il venu quelqu'un pendant mon absence? Je vais vous dire, il est venu le fontainier parce que le robinet du filtre m'est resté dans la main. Ce n'est pas ma faute, allez. Il avait fait une pluie dans la matinée, une pluie malheureuse. Alors? Bon, c'est un robinet à payer, n'en parlons plus. Mais quelqu'un pour moi, madame Menin? Attendez donc. Oui, un monsieur puissant, un peu rougeau, et sa dame, une grosse réjouie avec une toute petite voix. Belle femme, par exemple, dans mon genre, et puis leur fille, une personne. Monsieur Mouillard la connaît? Oui, madame Menin, ne décrivez pas. Vous leur avez dit que je n'étais pas là, et ils ont répondu qu'ils regrettaient beaucoup. La dame surtout, elle soufflait. Ce bon monsieur Mouillard qu'elle disait, nous jouons de malheur, madame Menin. Nous arrivons à Paris, il faut qu'il soit en Italie. Nous aurions été si heureux de le voir, monsieur Robinet et moi. Lorinet. Oui, Lorinet, la carte est là. Vous allez dire que c'est un caprice, madame Menin, mais j'ai une envie folle de visiter son appartement. Un appartement d'étudiant, ce doit être très curieux. Reste là, Berthe, mon enfant. Ça n'a rien de si curieux que je lui ai dit, et mademoiselle peut bien voir. Alors, monsieur, je les ai menés partout. La visite n'a pas dû être longue. Encore assez. Ils ont beaucoup regardé votre album de photographie. Faut croire que ce n'est pas connu chez eux. Madame Lorinet n'en revenait pas. Rien que des messieurs qu'elle disait. Jules, vois-tu ça? Ah, dame, madame, que j'ai répondu. C'est comme ça ici, sauf que j'y suis, moi, mais c'est comme rien. Il n'y vient que des messieurs. J'en ai fait, allez, des ménages de garçons. Eh bien, vrai, il n'y en a pas beaucoup. C'est bien, madame Menin, c'est bien. Je sais que vous avez toujours eu une trop bonne opinion de moi. Lampron n'est pas venu? Si, monsieur, avant-hier, il partait pour 15 jours, 3 semaines, en province, pour faire le portrait d'un curé, un évêque, je crois. 15 juillet. Midi, roi des étés. Je la sais, la pièce de monsieur le comte de Lille, comme dit mon oncle Mouillard. Ces vers me sifflent aux oreilles chaque fois que, sortant de déjeuner, je retourne à l'étude que j'ai quittée une heure auparavant. Quelle chaleur, grand Dieu! Je reviens d'un pays chaud, ce n'était rien auprès de Paris en juillet. L'asphalte fond sous le pied, le pavage en bois mijote dans un liquide goudronneux, l'idéal s'abaisse 20 fois le jour jusqu'à la chope de bière fraîche, les murs m'éclaboussent de chaleur, la poussière des jardins publics, devenue impalpable à force d'avoir été foulée, s'élève sous l'arrosage et retombe un peu plus loin en nuée blanche sur les passants. Une chose m'étonne, c'est que le canon du Palais-Royal ne parte pas toute la journée. Pour comble de misère, toutes mes relations sont au champ. Madame et Mademoiselle Boule se baignent à Trouville, le deuxième clerc n'est pas rentré de vacances, le quatrième m'attendait pour décamper. Lamperon, retenu par sa grandeur et par l'ombre des bois, ne donne pas signe de vie. Monsieur et Madame Plumet eux-mêmes ont mis la clé sous la porte et pris le train pour Barbizon. Cela nous rapproche, Monsieur Jupille, le vieux clerc et moi. J'apprécie sa conversation. Je lui trouve de la bonhomie, de la prudomie et de la philosophie qui n'a rien d'allemand puisque je la comprends. Petit à petit, je l'ai mis dans mes secrets par besoin de confident parce que j'étouffais au moral comme au physique. Quand il me remet un acte, à présent, au lieu de dire « c'est bien », je lui dis « asseyez-vous donc, Monsieur Jupille ». Je ferme la porte et nous causons. Les clercs s'imaginent que c'est jurisprudence, mais vertu bleu, c'est de toute autre chose. Hier, par exemple, il m'a murmuré à l'oreille « J'ai passé rue de l'université. Ils ne vont pas tarder à rentrer, vous savez. » « À quoi l'avez-vous vu ?»« J'ai vu le charbonnier qui montait 2 sacs de charbon et je lui ai demandé pour qui c'était. Voilà !» Et, tout à l'heure encore, nous avons eu un entretien qui prouve quel chemin j'ai fait dans le cœur du vieux praticien. Il venait de me soumettre un acte de conclusion. La lecture achevée et le grognement approbatif accordé, M. Jupille ne se retirait pas. « Est-ce que vous avez à me parler, M. Jupille ?»« Quelque chose à vous demander, un service, un honneur plutôt. »« Voyons. » « Ces temps-ci, Monsieur Mouillard, sont de jolis temps pour la pêche, un peu chaud. »« Un peu, Monsieur Jupille. » »« Pas trop, il faisait bien plus chaud que cela en 1844 et ça mordait. »« Enfin, voulez-vous bien venir dimanche prochain faire une partie de pêche avec nous ?»« Je dis nous parce que j'aurai avec moi un de vos amis qui est un fin amateur et qui m'honore aussi de son amitié. »« Qui donc ?» Un secret, Monsieur Mouillard, un petit secret. Vous serez bien étonné. Est-ce convenu, dimanche prochain ? Où ça ? Chut, le petit clerc a l'air d'écouter. C'est un malin. Je vous dirai cela une autre fois. Comme vous voudrez, Monsieur Jupille, j'accepte d'avance. Ah, je suis bien content, Monsieur Mouillard, si nous pouvions seulement avoir un petit orange. Il disait vrai, sa satisfaction éclatait au dehors, car jamais autant que cet après-midi, je ne l'ai vu gratter le bout de son nez avec les barbes de sa plume d'oie, signe d'une joie exubérante chez cet homme, dont tous les gestes se sont lentement rétrécis aux proportions de son appui-main. 20 juillet. J'ai revu Lamperon, bien triste et bien brave. Nous avons d'abord un moment causé de sa mère. Je louais l'humble femme du bien qu'elle m'avait fait. Et lui, renchérissant sur la louange, « Ah, disait-il, que serait-ce si tu l'avais connu davantage ? Si je suis un honnête homme, mon cher, si j'ai traversé sans faiblir les épreuves de la vie et de ma profession, si j'ai placé mon idéal au-delà du succès, en un mot, si je vaux quelque chose par l'esprit et par le cœur, c'est à elle que je le dois. Elle ne m'a jamais quitté, voilà la première séparation, et c'est la grande. Je n'y étais pas préparé. » Puis, changeant brusquement de sujet, « Eh bien, m'a-t-il dit, l'ancien amour, plus nouveau que jamais. » Il a résisté à une demi-heure de conversation. Il a doublé. « Te hait-elle encore ?» Je lui racontai le voyage à Désir et notre dialogue dans la voiture. Il écouta en silence et, quand j'eus fini, « Mon ami Fabien, il n'y a pas à hésiter. Dans 8 jours, il faut que ta demande soit faite. » Dans 8 jours, et par qui ? Par qui tu voudras, c'est ton affaire. J'ai pris des renseignements pendant ton absence. Elle me semble te convenir. Et puis, ta situation est absurde. Claire sans vocation, brouillée sans raison avec ton seul parent, il faut t'en sortir carrément et le mariage t'y forcera bien. 21 juillet. Je montai donc dans le train de Sceaux et je partis. Jupille m'avait donné par écrit, c'est sa meilleure manière de s'expliquer, les renseignements les plus précis. Je pouvais sans doute prendre le chemin de fer jusqu'à Massy ou jusqu'à Bièvre, mais c'était bien plus joli de faire la route à pied depuis Sceaux. Dans cette hypothèse, je devais laisser Châtenay à gauche, couper les bois de Verrières en suivant la ligne des forts, descendre en Trigny et à Blainvilliers, trouver enfin cet endroit où la Bièvre, élargissant ses eaux entre deux bords plantés d'aunes, forme un golfe minuscule, clair comme une fontaine et poissonneux comme un vivier. « Surtout, n'en parlez pas !» m'avait recommandé Jupille. « Il est à nous, c'est moi qui l'ai trouvé !» Quand je quittai Sceaux pour rejoindre Jupille parti avant le jour, le soleil était déjà haut. Pas un nuage, pas un souffle, partout l'implacable été. Mais si la chaleur était grande, la route était superbe. Autour de moi, une sève ardente éveillait toute vie, toute voix et tout parfum. Sous les branches, où volaient des troupes de linots, dans l'herbe que traversaient de gros scarabées d'or, dans l'air fouetté par des milliers de petites ailes retentissantes, mouches, moucherons, thans, abeilles, dont l'étrange mélopée, montant et descendant, chantait l'ardeur vivifiante du jour et l'immense lumière qui fouillait la campagne. Parfois, dans les clairières roussies, je m'arrêtais pour chercher mon chemin. Et puis, en avant encore par les sentiers du bois, sous le couvert des feuilles saturées d'odeurs lourdes, en avant sur la mousse glissante, vers la hauteur là-bas, d'où j'apercevrai la Bièvre. La voilà, elle glisse parmi cette verdure qui paraît d'une saison moins vieille que celle-ci. Descendons. Monsieur Jupille est quelque part dans cette vallée, il m'attend. Et je cours. L'herbe devient fraîche sous le pied. Il y a des clapotements de sources dans les creux des fossés et des touffes de myosotis dans les coins bas des prés. Alerte ! Une gaule se lève sur le ciel entre deux arbres. Alerte ! Une gaule se lève sur le ciel entre deux arbres. C'est lui, c'est le vieux clerc. Il me salue, il a posé sa ligne. J'ai cru que vous ne viendriez pas. Que vous me connaissez mal, est-ce que ça mord ? Pas si haut, oui, ça mord très bien. « Je vais vous préparer une ligne. »« Et votre ami, monsieur Jupille, où est-il ?»« Là. »« Où donc ? Il vous crève les yeux et vous ne le voyez pas ?»« Ma foi, non, je ne le voyais pas. » En plein soleil, quand il me l'eut montré du bout de sa canne à pêche, j'aperçus alors, à 30 pas, un large fond de pantalon blanc, un large dos de gilet brun décinglé, un panama qui devait cacher une tête et deux bras de chemise tendus vers l'eau. Rien ne bougeait. Il a dû sentir une morsure, dit Jupille. Sans cela, il serait déjà ici. Allez le voir, allez. Ne sachant pas qui j'allais aborder, je toussai en approchant, en manière d'avertissement. L'inconnu aspira l'air bruyamment, comme un homme qui s'éveille en sursaut. C'est vous, Jupille, dit-il en se tournant un peu. Vous n'avez plus d'appât ? Mais non, mon cher maître, c'est moi. « Monsieur Mouillard, enfin !»« Monsieur Flammarant, Jupille m'avait bien dit que j'aurais une surprise. Vous aimez la pêche ?»« Une passion, il faut bien en garder une ou deux pour l'âge mûr, mon jeune ami. »« Eh bien, sa mort, à ce qu'il paraît ?»« C'est-à-dire que ce matin, entre 8 et 9, il y a eu des agaceries, des frôleries, des suceries, vous savez. Mais depuis lors, c'est bien maigre. »« Ça l'est toujours. » « Évidemment. Ah, mon cher monsieur Mouillard, que je suis content de vous retrouver. Savez-vous que vous avez passé une bien jolie thèse ?» L'éminent professeur s'était levé et, la face encore rouge d'avoir dormi pliée, la bouche épanouie, me serrait la main de tout son cœur et de tout son poignet. « Voici votre ligne, monsieur Mouillard, » dit Jupille en intervenant. « Elle est toute amorcée. Si vous voulez me suivre, je vais vous mener dans un bon endroit. » « Non, non, Jupille, je le garde, » répondit M. Flammarant. « Depuis 3 heures que je n'ai pas articulé une syllabe, j'ai besoin de me détendre un peu. Nous pêcherons côte à côte en bavardant. »« Comme vous voudrez, M. Flammarant, mais je n'appelle pas ça pêcher, moi. » Il me remit l'arme et s'en alla triste. Nous nous assîmes, M. Flammarant et moi, à 2 pas l'un de l'autre, sur la berge, les pieds sur la grève encore molle, jonchée de roseaux morts. Devant nous s'étendait le petit golfe annoncé, renflement léger de la Bièvre, dont un abreuvoir était la cause ancienne. Le soleil, en plein midi, resserrait l'ombre au pied des arbres. La surface unie de l'eau nous renvoyait ses rayons. À peine si l'oscillation lente de quelques feuilles de nénuphar accusait un reste de courant. Deux grandes libellules bleues, frissonnantes, s'étaient posées sur nos bouchons et pas un poisson ne semblait vouloir troubler leur voyage. « Ainsi, dit M. Flammarant, vous êtes toujours principal chez Maître Boule ?»«
Provisoirement. »
« Cela vous plaît ?»«
Médiocrement. »
« Qu'attendez-vous ?»«
Que le temps passe. »
« Et qu'il vous ramène en Italie, sans doute ?»«
Vous savez donc que j'en reviens ?»«
Je sais tout. Charnot m'a rencontré votre rencontre, votre promenade sentimentale au clair de la lune. À propos, il est revenu très enrhumé, vous savez ?»
Je pris un air compatissant.
« Ah, ce pauvre monsieur, quand est-il arrivé ?»«
Avant-hier. Naturellement, j'ai été averti le premier, et dès hier, nous passions la soirée ensemble. » Je vais peut-être vous étonner, monsieur Mouillard, je vais vous paraître exagéré. Eh bien, je trouve Jeanne plus gentille encore qu'avant son départ.
Croyez-vous ?
Oui, positivement. Ce soleil du midi...
Faites donc attention, mon cher Mouillard, votre ligne est à moitié hors de l'eau.
Lui a rendu ses joues roses en les dorant par-dessus le marché et sa belle humeur qu'elle avait perdue, la pauvre fille. Elle est gaie à présent comme par le passé. « Car j'ai été bien inquiet d'elle. Vous avez su cette triste affaire ?»«
Oui. »«
Un polisson, mon cher Mouillard, un vrai polisson. Je n'ai jamais été partisan de ce mariage-là, moi. Charnot s'est laissé entortiller par un ami de collège. J'avais beau lui dire, c'est à la dot de Jeanne qu'on en veut, Charnot. Jeanne sera incomprise, malheureuse, j'en suis sûr. » Il n'écoutait rien. Enfin, tout est rompu. Mais ça n'a pas été sans secousse, vous comprenez, et moi, j'ai bien souffert de voir souffrir cet enfant-là.
Vous êtes si bon, monsieur Flammarant.
Non, ce n'est pas ça, monsieur Mouillard, mais Jeanne, je l'ai vue naître, je l'ai vue grandir, je l'ai aimée toute petite. C'est une fille adoptive pour moi. Quand je dis fille adoptive, vous m'entendez bien. Je ne veux pas dire qu'il y ait entre elle et moi ce lien, imité de la nature, que nos codes ont permis d'établir, adoptio imitatur naturam. Non, mais que je l'aime à l'égal d'une fille, Sidonie ne m'en ayant pas donné, pas plus du reste que de garçon. »
Un cri de Jupille interrompit M. Flammarant.
« Vous n'entendez donc pas comme ça sonne ?»
Et les bras levés, l'air effaré, le bonhomme accourait, les plis de son pantalon flottant avec des claquements de drapeau derrière ses jambes maigres. En un instant, nous fûmes sur pied, et ma première pensée, absurde d'ailleurs, fut qu'un serpent à sonnette s'avançait en sonnant à travers les herbes. J'étais bien loin de la vérité. Il s'agissait d'une ligne à brocher, invention de M. Jupille, tendue un peu plus loin, et dont le bouchon, construit comme un radeau, portait un petit grelot. Le poisson, en mordant, sonnait son propre glas.
« Ça sonne à toute volée !» s'écriait Jupille. « Et vous ne bougez pas ! Je n'aurais pas cru cela de vous, monsieur Flammarant !» Il nous dépassa, brandissant une épuisette comme un guerrier sa javeline. Il avait 25 ans. Nous le suivîmes, moins ardent et moins confiant que lui. Il avait cependant raison. En retirant sa ligne, dont le radeau disparaissait par saccades et emportait la cloche sous les eaux, il amena un brochet de belle taille, le déclara monstrueux, le laissa filer plusieurs fois pour le fatiguer et aussi pour se donner la joie de le tenir en main.
« Messieurs, criait-il, il me coupe les doigts !»
Un coup d'épuisette étendit à nos pieds le monstre à bout de force. Il pesait bien 4 livres, Jupille en jura 6. Nous reprîmes nos places côte à côte, mon savant maître et moi. Mais l'entretien coupé ne se renoua pas. J'essayais de parler d'elle, M. Flammarant s'obstina à me parler de moi, de Bourges, de son concours d'agrégation et des caractères profondément différenciés qui distinguent la morsure du goujon de celle de la blette. Ce fut d'ailleurs un cours purement théorique. 2 heures avant le coucher du soleil, M. Flammarant se leva, n'ayant rien pris. «
Bonne partie, dit-il quand même, l'endroit est bon. ça mordait ce matin. Nous y reviendrons, Jupille, avec un petit vent d'est, on en prendrait de ces goujons. »
Il se mit à marcher près de moi et, fatigué sans doute par sa longue immobilité, par la chaleur, par le rayonnement de l'eau, s'absorba bientôt dans une méditation dont les rencontres du chemin ne le firent pas sortir. Jupille nous précédait, une main sur sa canne à pêche, portant de l'autre un cabas à provisions et le sac à poissons. Il se retournait de temps en temps au carrefour, nous regardait, souriait sous sa moustache retombante et reprenait son pas accéléré. « Nous devons avoir, pensais-je, quelque chose de drôle, et ce taciturne plumitif se donne le plaisir d'une plaisanterie mentale. » Je n'avais pas deviné. Au détour d'un sentier, M. Flammarant s'arrêta tout à coup, tourna la tête de tous côtés en respirant fortement.
« Hé, Jupille, où nous menez-vous, mon ami? Si je n'ai pas la berlue, voici la butte au marronnier. Là-bas, c'est le Plessis Piqué. »
« Nous sommes à plus de 2 kilomètres à gauche de la gare, et le train de 7 heures. » Il n'y avait pas à le nier, cet âne qui débouche d'une allée, pomponné, carillonnant, deux petites filles dans ses paniers et les parents suant derrière, tenant l'aiguillon, ces bois devenus bosquets où pointent les toits en paille des kiosques champêtres, où se multiplient les labyrinthes, les cascades artificielles, les faux rochers, les fausses grottes, les fausses ruines, tout l'art affreux des rusticeurs, ces effluves lointains de bière et de gibelotte, ces bouteilles cassées abondantes le long des fossés, l'air fatigué, usé, maltraité des buissons, ce murmure confus de voix et de pétards qui passent dans le vent, tout cela désigne assez Robinson, le pays des jolies guinguettes. Les voici toutes, le vieux Robinson, le nouveau Robinson, l'ancien Robinson, le vrai Robinson, les marronniers de Robinson, les châtaigniers de Robinson, les dènes de Robinson, toutes sont l'unique et l'authentique Robinson, toutes ont des portiques de chaume, des allées sablées, toutes des transparents éclairés au pétrole, des étoiles en baudruche, des pavillons, des drapeaux, des appareils d'illumination à giorno, des affiches multicolores, où sont énumérés tous les éléments qui constituent une partie à Robinson, tir à la carabine, jeu de boules, jeu de tonneaux, escarpolette, charmille particulière, bière de Munich et dîner dans les arbres. « Vous voyez, Jupille, vous voyez !» s'écriait M. Flammarant, « en plein Robinson, voilà où vous nous menez !» Le vieux clerc, la mine déconfite, avec cet air patibulaire qu'il prenait au moindre emportement de Maître Boule et qui lui allongeait toute la tête, s'approcha de M. Flammarant et lui parla bas à l'oreille.
Quelle idée ! En vérité, Jupille, à quoi pensez-vous ? Moi, professeur, il y a 30 ans, c'eût été pardonnable, mais aujourd'hui... Et puis, Sidonie m'attend.
Il resta un moment indécis, regardant l'heure à sa montre. Jupille, qui l'observait, vit son honorable ami se dérider progressivement et partir d'un éclat de rire sonore.
« Parbleu, c'est une folie, mais nous la ferons. Nous serons jeunes 1 heure encore. Mon cher Mouillat, Jupille nous a commandé un dîner à Robinson. Si j'avais été consulté, j'aurais choisi un autre endroit. » Mais que voulez-vous, la faim, l'amitié et la certitude de manquer le train font taire mes scrupules. Qu'en pensez-vous ?
En avant !
En avant ! Répéta mon vieux maître.
Et, précédé de Jupille portant toujours sa friture, nous entrons au vrai Robinson. M. Flammarant, légèrement inquiet, jetait des coups d'œil interrogateurs dans les éclaircies des bosquets. Je crus entendre sous les branches quelques rires étouffés.
« Ces messieurs ont retenu le marronnier numéro 3, » dit le patron de l'établissement. « Ces messieurs n'ont qu'à monter. »
Nous grimpons, en effet, par l'escalier en spirale établi le long du tronc. C'est un bel arbre, le marronnier numéro 3, très vieux, un peu penché, et qui porte, dans la puissante main que forment ses premières branches, un plancher entouré d'une balustrade, 6 colonnettes de bois fruste, et, pour abriter le tout, un toit de paille en forme de chapeau pointu. Il y a des cabanes du même genre dans les arbres voisins, on les prendrait de loin pour d'énormes nids opaques dans la verdure claire. Salle à manger très recherchée, où l'on dîne à 30 pieds en l'air,
où les convives montent sur leurs jambes et les servissent par une poulie. Quand M. Flammarant apparut sur la plateforme, il ôta son chapeau et appuya ses deux mains sur la rampe pour inspecter les alentours. La pose était oratoire. Sa forte tête grise se dessinait dans la lumière du couchant.
« Il parlera !» cria une voix.
« Parlera pas !» répondit une autre. Ce fut un signal, quelque chose comme un frémissement parcourut les charmilles, une foule de têtes curieuses s'agitèrent dans tous les coins du jardin. Au cliquetis des verres, on devinait que des groupes entiers quittaient les tables pour venir voir. Les garçons s'arrêtaient et levaient les yeux vers le marronnier numéro 3. Tout Robinson regardait Flammarant et se demandait pourquoi. « Messieurs, reprit quelqu'un du fond d'une tonnelle, « Monsieur Flammarant, professeur à l'école, va commencer son cours. » Un concert de rires et d'apostrophes monta vers le marronnier.
« Ohé, mon vieux, attends que nous soyons partis.
Il va étudier le contrat de mariage, mademoiselle.
Non, la purge des hypothèques.
Non, le paiement des dettes.
C'est immoral, à Chaillot. »
Monsieur Flammarant, un peu déconcerté d'abord, trouva une inspiration heureuse. Il étendit le bras pour montrer qu'il allait parler. Sa large bouche eut un sourire paternel et malicieux, et, au-dessus des bosquets attentifs, on entendit retentir ces mots. « Mes enfants, je vous promets à tous une blanche si vous me laissez dîner en paix. » Une acclamation couvrit la fin de la phrase.
« Vive le père Flammarant ! Vive le père des étudiants !»
3 salves d'applaudissements suivirent, puis quelques battements de mains isolés, puis tout rentra dans le silence et nul ne s'occupa plus du marronnier numéro 3. Monsieur Flammarant quitta la balustrade et déplia sa serviette.
« Comptez sur mes blanches, mes gaillards » dit-il en s'asseyant.
Son succès oratoire l'avait flatté. Il était tout animé et tout riant. Jupille, au contraire, pâle comme s'il avait traversé une émeute, demeurait immobile, assis sur ses talons.
« Eh, ce n'est rien, Jupille, mon bon. Avec un peu d'à-propos, on s'en tire, bagasse !»
Le vieux clerc se rassura par degrés et le dîner fut très gai. Monsieur Flammarant, décidément mis en verve, ne tarissait pas. Il trouvait une histoire au fond de chaque verre de Chablis et la racontait avec la lente bonhomie qui était sa manière. Vers la fin, au moment où le garçon offrait à ces messieurs un mendiant assorti, poire, pêche, confiture, meringue, fruits à l'eau de vie, nous causions de Sidonie la perle du forêt. Monsieur Flammarant nous exposait, avec les dates, qu'un de ses amis lui ayant un jour dépeint une jeune fille de Montbrison, fraîche et avenante, bonne ménagère et bien apparentée, il s'était, pour la voir, mis en route, l'avait reconnue sans la connaître, s'était épris sur le champ et n'avait pas tardé à être payé d'un légitime retour. Les justes noces avaient été célébrées à Saint-Galmier. « Oui, mon cher Mouillat, ajouta-t-il en matière de conclusion, il y aura 30 ans au mois de mai que je suis heureux. Et vous, quand suivrez-vous mon exemple ?» Monsieur Jupille, à cette ouverture, se crut de trop et disparut par l'escalier en spirale. Nous avions causé dans le temps, continua Monsieur Flammarant, de quelque héritière de Bourges. Vous y renoncez à ce que je vois ?
Tout à fait.
C'est votre droit, jeune homme. Mais alors, pourquoi pas une Parisienne ?
En effet, pourquoi pas ?
Vous avez peut-être des préjugés contre les Parisiennes ?
Aucun.
J'en ai bien eu, moi qui vous parle, mais j'en suis revenu. Elles ont une grâce à elles, mon cher Mouillard, une manière de s'habiller, de marcher et de rire, qui ne franchit pas les fortifications. J'ai cru longtemps que ces qualités-là leur tenaient lieu de vertu. Eh bien, c'est une calomnie. Il y a des Parisiennes vertueuses, j'en connais même qui sont des anges. Ici, M. Flammarant me regarda dans les yeux et, comme je ne répliquais rien, ajouta « J'en connais une au moins, Jeanne Charnot. Entendez-vous ?
Oui, monsieur Flammarant.
N'est-ce pas une fille accomplie ?
Certainement.
D'autant de raison que de cœur ?
Je le crois.
Et d'autant d'esprit que de raison ?
C'est mon avis.
Et si c'est votre avis, jeune homme, pardonnez-moi de brûler mes vaisseaux, tous mes vaisseaux. Si c'est votre avis, je ne comprends plus. La croyez-vous sans fortune ?
J'ignore.
Ce serait une erreur, elle est riche.
Vous trouvez-vous trop jeune ?
Non.
Vous vous figurez peut-être qu'elle est encore engagée dans ce fatal amour ?
J'espère que non.
Et moi, j'en suis sûr. Elle est libre, vous dis-je, libre comme vous.
Eh bien, pourquoi ne l'aimez-vous pas ?
Mais, monsieur Flammarant, je l'aime.
Ah, mon ami, que vous faites bien !
Monsieur Flammarant ne se leva pas. Il se pencha de droite à gauche, je me penchai de gauche à droite. Nos têtes se rejoignirent. Il me serra dans ses bras. Il était si ému, mon vieux maître, qu'il ne pouvait parler, oppressé par l'émotion, par la joie, comme s'il avait été mon père ou celui de Jeanne. Après un moment, il se redressa sur sa chaise et se tint assis en face de moi, à longueur de bras, les deux mains sur mes épaules, comme s'il avait craint de me voir m'envoler.
« Ah, vous l'aimez, vous l'aimez. Sapristi, que j'ai eu du mal à vous le faire dire. Vous avez bien raison de l'aimer, certes, certes. Je n'aurais pas compris le contraire. Mais alors, mon ami, alors, c'est que si vous tardez trop, charmante comme elle est, vous comprenez...
Oui, il faudrait la demander.
Justement.
Hélas, monsieur Flammarant, qui voulez-vous qui fasse une pareille démarche pour moi ? Je suis orphelin, vous le savez.
Pauvre garçon, mais votre oncle ?
Nous sommes brouillés.
On se remet pour la circonstance.
Impossible, nous sommes brouillés à cause d'elle, mon oncle déteste les Parisiennes.
Diable, diable !
Alors un ami, un simple ami, cela se peut à la rigueur.
J'ai bien l'emprunt.
Le peintre ?
Oui, mais il ne connaît pas M. Charnot. Ce sera un inconnu sollicitant pour un étranger.
Maigre chance, il aurait mieux valu...
Un ami commun, n'est-ce pas ?
Et moi, n'en suis-je pas un ?
Oh, si !
Eh bien, je m'en charge de la demande, jeune homme. Je la demanderai, cette charmante Jeanne. Je la demanderai pour nous deux. Pour vous, qui la rendrez heureuse, et pour moi, qui ne la perdrai pas tout à fait en la mariant à l'un de mes élèves, à l'un de mes docteurs préférés, à mon ami Fabien Mouillard. Et je l'obtiendrai, bagasse ! Je vous en réponds.
Il frappa sur la table un coup de poing terrible qui fit sonner les verres et tituber les carafes.
« On y va !» cria d'en bas le garçon, croyant qu'on appelait.
Monsieur Flammarant se pencha au-dessus de la balustrade.
« Ne vous dérangez pas, mon ami, ce n'est rien !»
Il revint vers moi, toujours ému, mais apaisé.
« Maintenant, dit-il, causons et dites-moi tout !»
Oh, la longue et douce causerie qui vint ensuite! Oh, le brave et digne homme que ce professeur qui ne professait plus, mais qui laissait parler son cœur, un cœur naïf, transparent, conservé dans l'étude du droit comme un raisin dans un sac de crin. Tantôt, il souriait quand j'exaltais Jeanne, tantôt, il écoutait mes objections avec un air de défi, la bouche en arc, et les réfutait véhémentement.
« Comment, monsieur, vous osez dire ?
Jeune homme, pourquoi ces vaines craintes ?»
Sa bonté en émoi débordait en protestations solennelles et sincères.
Ni l'un ni l'autre, nous ne vivions plus à Robinson, mais bien loin de là, dans le monde sans lieu où les intelligences se pénètrent, où les cœurs se comprennent. Nous n'entendions pas le grincement d'une escarpolette au-dessous de nous, ni les éclats de rire des promeneurs, ni le bruit d'un orchestre qui s'accordait dans un pavillon voisin. Nos yeux levés ne voyaient pas la nuit qui descendait, immense et calme, perçant les feuilles de ses premières étoiles. Par moments, un souffle tiède passait, venu des bois. J'y sentais un parfum d'une étrange douceur. Une vision rapide me traversait l'âme, celle d'une grande tulipe sombre lamée d'or, ouvrant son calice au bord humide des fossés, et je me demandais si vraiment une fleur mystérieuse était éclose dans la nuit, ou si ce n'était pas un sentiment nouveau, lentement formé, qui s'épanouissait dans mon cœur.